Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série de la poussière à la gloire. C'est un titre merveilleux, car nous sommes que poussière, mais avec l'aide du Seigneur, nous arrivons à la gloire. C'est l'étude numéro 4 et le titre sera « Son repos annonce la gloire ». Ce sera exceptionnellement une petite étude, mais elle est très importante malgré tout et ça vaut la peine de s'y arrêter, j'en suis certain. Dieu nous parle par le moyen de sa parole éternelle. Il parle à un peuple qui sera sur terre lors d'un bouleversement mondial. Écoutons ce qu'il dit dans le psaume 46, versets 1 et 2. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait transportée de sa place et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers. Dieu promet donc à tous ceux qui se trouvent en plein centre d'un épouvantable chaos que sa présence sera pour eux un refuge. La raison en est qu'il est présent. Et le mot présent doit être compris de deux façons. Il est ici avec moi et il est maintenant avec moi. Il est présent dans le temps aussi bien que dans l'espace. Il est ici maintenant. Nous ne craindrons pas à cause de cette présence manifestée qui est tangible au milieu de nous. Au verset 4 et 5 du psaume 46, il est écrit « Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des tabernacles du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secouera au lever du matin. Ce fleuve, apportant la joie, coule de la gloire de Dieu. On voit qu'il coule au milieu des saints tabernacles de Dieu. Cela ne peut pas faire allusion que à nous, qui sommes son peuple. Nous sommes le seul endroit à multiples tabernacles qu'il ait habité. Dans l'Ancien Testament, il occupait un seul tabernacle, c'est-à-dire celui construit par les mains d'hommes. Or, nous sommes les tabernacles de Dieu non construits par les mains. Il parle de sa présence au milieu de nous comme étant un fleuve. Et si ce fleuve doit jaillir à partir d'un petit ruisseau, il nous faut nous tenir tranquilles et savoir qu'il est Dieu. Verset 10. Il nous faut donc cesser les combats, cesser de réclamer bruyamment le secours. Arrêtons-nous et permettons à sa présence de simplement surgir de cette petite chambre qui représente notre cœur. Non seulement sa présence sera pour nous un refuge, mais elle nous communiquera la joie et le bonheur au milieu des épreuves. Cette présence doit croître comme un fleuve débordant des cœurs et des âmes de son peuple pour couler sur le monde, le but de Dieu étant d'atteindre le monde au moyen de ce fleuve. À partir de notre repos en lui, Dieu suscitera des fleuves de puissance, des fleuves qui pourboiront à des fleuves de gloire. Là où Dieu trouve son repos, sa gloire se manifestera. Ésaïe chapitre 11, verset 10 nous dit « Et son repos sera la gloire ». C'est là l'accomplissement de ce que Dieu veut faire en nous et ensuite au travers de nous. Son plan éternel est que sa présence et sa gloire soient manifestées sur cette terre à l'heure où tout est ébranlé autour de nous. Cette gloire, semblable à celle qui couvrait l'arche du tabernacle dans l'Ancien Testament, est encore appelé un fleuve dans Ésaïe chapitre 33, verset 21. Il est dit « Mais là, l'Éternel est pour nous magnifique, un lieu de fleuve, de larges rivières. Il n'y viendra aucun vaisseau à rames, aucun noble navire n'y passera. » Le prophète voyait le fleuve de la glorieuse présence de Dieu coulant comme des rivières. Mais rien de ce qui est au travail ou des efforts humains ne pouvait souiller ce fleuve. Seuls ceux qui, dans son repos, ont abandonné leurs efforts personnels, leurs bonnes œuvres religieuses, qui ont placé leur confiance en Jésus, son œuvre accomplie et sa grâce, c'est eux qui feront partie de ce fleuve. Le vaisseau à rames était un bateau manœuvré par des esclaves, image de l'esclavage et de la lutte humaine. Cela correspond à la vision d'Ézéchiel du sanctuaire de la gloire de Dieu, où rien de ce qui fait transpirer l'homme ne pouvait y pénétrer. Ézéchiel 44, verset 18, là nous voyons qu'il est dit, « Ils auront des turbans de lin sur leur tête et des caleçons de lin sur leurs reins, ils ne se ceindront pas avec ce qui fait transpirer. » La sueur, elle nous parle de labeur charnel. La gloire de Dieu descend dans un lieu de repos. À partir du moment où nous entrons dans son repos, nous faisons l'expérience de sa merveilleuse sollicitude, sa protection, sa puissance. Tout est là pour que nous en bénéficions. Mais Dieu exige quelque chose de nous, c'est que nous soyons pleinement établis dans son repos, fondés et enracinés en lui. Ce n'est que alors qu'il pourra être au repos en nous. Nous avons fait une demeure pour lui dans nos vies, et c'est là, dans ce lieu, que sa gloire se manifestera de plus en plus. Il fait sortir un peuple du combat pour le placer dans son repos, puis dans sa gloire. Son repos sera glorieux. Nous avons petit à petit développé une pensée plus profonde. Le repos et la gloire de Dieu doivent être en nous, doivent être transmis au travers de nous. Ce n'est pas une prérogative qui nous est réservée, mais cela est destiné à un monde qui souffre. la gloire de Dieu visitera la terre comme un fleuve de bénédiction. Mais c'est à travers nos entrailles que ce fleuve coulera sur la terre depuis la présence de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 47, il est question d'un fleuve de Dieu coulant du sud de l'autel, apportant la vie, l'abondance et la gloire dans le pays. Partout où il passe, il y a la vie. Ce fleuve a sa source en Dieu. Il coule au travers de nous et se déverse sur la terre. Nous sommes donc les aqueducs vivants du Seigneur pour arroser spirituellement le pays. Le psalmiste chante de ses chambres hautes, il abreuve les montagnes. Psaume 104, verset 13. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit et nous le portons en nous là où nous allons. Nous devons donc permettre à sa bonté de couler de notre être comme un fleuve. Le potentiel extraordinaire de Dieu en nous a été trop longtemps étouffé par notre nature charnelle. Il nous faut donc donner la priorité dans nos vies à ces fleuves de bénédiction. Mais comment y parvenir? C'est sûrement là notre désir. Mais en fait, comment laisser couler au travers de nous, librement et continuellement, la gloire de Dieu tel un fleuve vivant? Les saintes Écritures nous donnent la solution réalisable. Elles font le rapprochement entre la louange, l'adoration et la gloire de Dieu manifestée dans la nuée. Les Lévites transportaient l'arche et ils la portaient de manière tout à fait particulière et ils utilisaient des barres de bois. Exode chapitre 37, versets 4 et 5 nous dit « Et il fit des barres de bois de sittim et les plaqua d'or et il fit entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche, pour porter l'arche. En anglais, le mot « bar », c'est « staff ». Cela signifie aussi « le soutien ». Une barre de bois était utilisée pour transporter l'arche pour les Lévites de Dieu. C'est le soutien de la vie. Chers amis, notre langue est en quelque sorte une barre ou un soutien. Nous devons associer ce soutien avec le transport de l'arche. On nous dit dans les Proverbes chapitre 15, verset 4, « Une langue douce est un arbre de vie. » Le mot pour arbre ici, cela signifie aussi le soutien de la vie. Dans l'Ancien Testament, l'arche était transportée par des barres sanctifiées qui étaient destinées à cette seule fin. Dans le Nouveau Testament, l'arche de la présence de Dieu en nous est transportée par les langues douces des Lévites spirituels de Dieu. La langue, lorsqu'elle est utilisée selon Dieu, est la seule partie de notre être charnel qui nous relie à la gloire de Dieu présente dans les profondeurs de notre sein, notre lieu très saint personnel. Nos langues sont comme la mèche de la lampe du Saint-Esprit en nous. Dans les psaumes, à cinq reprises, la langue est appelée notre gloire. Elle nous transporte dans la gloire de Dieu en sa présence. Considérons le psaume 100 qui nous dit précisément comment nous servir de nos langues, ces barres spirituelles portant le sanctuaire qui est en nous. On nous dit, premièrement, de pousser des cris de joie. Deuxièmement, de venir devant lui, devant Dieu, avec des chants de triomphe. Et troisièmement, d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Nous pouvons entrer de cette manière-là dans notre Saint des Saints intérieur. Cette arche de sa présence est aussi appelée la fontaine du salut. Jésus en parle ainsi dans Saint Jean, chapitre 4, verset 14. « Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. » Puis dans Saint Jean, chapitre 7, verset 38, il est dit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Nous libérons l'eau de cette fontaine du salut lorsque nous utilisons nos langues dans l'adoration, dans la louange et les actions de grâce. Chacun de nous, si nous appartenons à Christ, possède un tel puits, mais nous ne savons pas comment en libérer les eaux afin de bénéficier plus abondamment de ses bénédictions. Ésaïe chapitre 12 versets 3 et 6 décrit de façon vivante comment nos langues et nos voix libèrent l'eau de ses puits. Il est dit « Et vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. Pousse des cris de joie et exulte, habitants de Sion, car grand au milieu de toi est le Saint d'Israël. » Quelqu'un a dit que notre joie devient notre sceau, puisque les anciens puits avaient un seau pour puiser l'eau et que nous la puisons avec notre joie. Nous devons pousser des cris de joie. Quand nous louons à haute voix, les eaux intérieures jaillissent et communiquent la vie partout où elles coulent. Nos puits intérieurs sont souvent bouchés par les détritus de notre existence charnelle. Ceux-ci doivent être éliminés pour que le Saint-Esprit coule puissamment. Là aussi, nos langues seront l'outil utilisé comme débouchoir à nos puits obstrués. Dans le livre des Nombres, les enfants d'Israël étaient rassemblés autour d'un puits à Béer. Le Seigneur avait dit à Moïse qu'il leur donnerait de l'eau à cet endroit, et pourtant, en y arrivant, ils ont vu qu'il n'y en avait pas. Le puits était donc recouvert de sable, et ils ne le voyaient pas. Mais ils savaient qu'ils se trouvaient là, même s'ils étaient cachés. Puis alors, il se passa quelque chose de merveilleux. Les enfants d'Israël se mirent à chanter au puits et les princes du peuple se mirent à creuser avec leurs bâtons. Nombres, chapitre 21, versets 17 et 18. Alors Israël chanta ce cantique. monte, puis chantez-lui. Donc on parle du puits que des princes ont creusé, que les hommes nobles du peuple ont creusé avec leurs bâtons. Tous, chers amis, nous avons plutôt envie de chanter après que les eaux se soient manifestées. Il est question de nos puits intérieurs. Mais le problème est le suivant. C'est un fait que nos puits se bouchent. Nous sommes constamment exposés à un environnement hostile à l'Esprit de Dieu et le résultat est que nous perdons notre joie, cette joie qui est notre force. Et c'est alors que nous devons chanter à notre puits, nous devons amorcer notre pompe en nous servant de notre langue pour en libérer les eaux. Nous devons déloger les déchets avec nos bâtons. Nos langues sont donc ces barres qui ont le pouvoir de nous transférer du domaine naturel au domaine spirituel, du naturel au surnaturel. Nos langues sont donc le moyen instauré par Dieu pour nous faire entrer à nouveau dans sa gloire. Quand l'arche de l'Alliance fut amenée à sa destination dans le temple de Salomon, les barres retirées des anneaux furent placées à l'intérieur du voile et seules leurs extrémités dépassaient du saint lieu. Ces barres reposaient donc un bout dans le sanctuaire et l'autre bout derrière l'épais voile dans le lieu très saint. Pourquoi cela? Eh bien, il était interdit de pénétrer dans le saint des saints, sauf une fois par année et par un seul homme, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Il y avait toujours la possibilité que l'arche dût être déplacée. Alors ce fut le cas au temps de Jérémie à cause de la guerre et de l'imminente destruction de son lieu de repos dans le temple. Les barres dépassent dans le sanctuaire, autorisées aux Lévites, permettaient donc l'accès continuel à cette précieuse arche. On pouvait la déplacer en se servant des barres. Ce qui est à l'intérieur du voile représente le monde de l'esprit. Or, le lieu saint représente le domaine de l'âme humaine. C'est le domaine naturel. Par le moyen de nos barres, nous pouvons passer du domaine naturel au domaine spirituel à volonté. Nous pouvons entrer en sa présence avec nos chants. Nous transportons notre arche de gloire au moyen de nos barres, c'est-à-dire au moyen de nos langues. La gloire de Dieu habite en nous. Alors que nous commençons à le louer, sa gloire surgit. Dieu habite dans nos louanges pendant que nous louons sa gloire. Elle se répand jusqu'à ce que notre être intérieur tout entier soit inondé de sa présence. Dans le psaume 68, verset 1, il nous est dit que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés et que ceux qui le haïssent s'enfuient devant lui. pardon, c'est à nous, oui, c'est à nous, de permettre que cela puisse avoir lieu. Le moyen le plus simple de permettre à Dieu de se lever est d'utiliser nos voix pour le louer. Celui qui est en nous se lèvera, répandant sa présence tout autour de nous. Il habite au milieu des louanges de son peuple. Dans Ésaïe 60, verset 1, l'ordre nous est aussi donné. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Il ne nous est pas dit que cette gloire nous tombe d'en haut, mais qu'elle jaillit de l'intérieur de nous qui sommes son peuple. La gloire est donc en nous, mais nous devons lui permettre de se manifester. La gloire de Dieu a rempli le temple de Salomon le jour de sa dédicace et de la même manière, la gloire de Dieu se lèvera sur son peuple quand notre consécration sera absolument totale. La gloire de Dieu a franchi toutes les barrières ce jour-là. Elle se répandit du lieu très saint au lieu saint et jusque dans les parvis. Toute activité humaine s'est arrêtée. Seul Dieu se mouvait merveilleusement alors que son peuple était prosterné dans un transport d'adoration. La gloire de Dieu se lèvera ainsi du milieu de son peuple. Il se lèvera de son lieu d'habitation en nous et remplira nos pensées et nos cœurs. Nos corps physiques eux-mêmes seront profondément touchés et toute activité humaine cessera. Dieu agira merveilleusement. Il fera des choses auxquelles nous n'aurions même pas pensé. D'où Dieu se lèvera-t-il? De son trône dans le ciel? Non, non, non. Du trône qu'on lui aura donné dans nos vies. Dans le psaume 132, verset 8, il est dit: Lève-toi, Éternel, pour entrer dans ton repos. Son repos est donc en nous, nous qui sommes son peuple, comme nous l'enseigne le psaume un peu plus loin, car l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité, ici j'habiterai, car je l'ai désiré. Versets 13 et 14. Permettez-moi d'insister là-dessus. Dieu cherche un lieu de repos en nous. Et ce lieu de repos doit être dans un cœur préparé. À la fin des temps, il se lèvera de son repos et il manifestera sa gloire sur toute la terre. Il en parle dans Ésaïe 33, verset 10. Maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je m'élèverai. Dieu parle donc d'une manifestation surnaturelle de sa gloire sur la terre dans les derniers temps. Une manifestation où lui sera exalté et non pas la chair, où notre activité humaine sera superflue face à sa grâce et à sa puissance qui sera répandue de façon spectaculaire, comme au jour de la dédicace du temple de Salomon. Vous pouvez avoir des études là-dessus, qui sont nombreuses, en consultant Internet, www.bibleexplique.ch. De son côté, de son lieu de repos, excusez-moi, de ce lieu secret, eh bien, Dieu se manifestera dans son peuple. Dieu nous rassemble comme jamais auparavant dans l'adoration et dans la louange. Parmi les nations, je vois combien est glorieuse la louange qui monte vers lui. Il se passe quelque chose dans les cieux lorsque le peuple de Dieu le loue. Quand nous nous unissons et que nous permettons à ce grand fleuve de gloire et de vie de se répandre au moyen de nos cris de joie, il va se passer des choses dans les lieux célestes, et oui, au-dessus de nous. Donc Dieu crée le rapport entre ces sons joyeux jaillissants de son peuple et les nuages de gloire et de réveil apportant la pluie sur cette terre de ténèbres. Dans le livre de Job, chapitre 36, versets 27 à 29, il est écrit « Car il attire les gouttes d'eau, des vapeurs qu'il forme d'elle, distillant la pluie que les nuages font couler. Il tombe en gouttes sur les hommes abondamment. Mais qui peut comprendre le déploiement de la nuée, le fracas de son tabernacle? Avons-nous vraiment compris que la formation de ces nuages de pluie spirituelle se produit au moyen des grands cris de louange qui montent de nos églises? Il faut que nous le comprenions. Notre louange va créer la pluie qui doit se répandre sur toute chair. Notre louange condense une pluie de gloire pour en saturer cette terre comme elle n'en a jamais reçu jusqu'ici. Joël, ouvrez votre Bible dans Joël, au chapitre 2, versets 28 à 32. Là, il est dit, « Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes hommes auront des visions, et aussi sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit, et je montrerai des signes dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, et à Jérusalem, comme l'Éternel a dit, et pour les réchappés que l'Éternel appellera. Cette effusion doit venir sur toute chair. Les signes promis par Dieu c'est-à-dire la fumée et, la et le feu, nous parle des manifestations impressionnantes de sa gloire et de sa puissance au milieu des nations. La grâce sera telle pendant ce réveil que quiconque invoquera Dieu sera délivré. À l'heure où l'iniquité sera à son apogée, le comble de la puissance du sang de Jésus sera manifesté. Il y aura la puissance pour sauver, pour guérir, pour délivrer des chaînes de l'esclavage, et du péché. La puissance qui libère des pratiques et agissements diaboliques qui augmentent partout, alors que la nature humaine sombre de plus en plus dans la dépravation. Des milliers d'âmes doivent venir à Christ pendant ces prochaines années. Oui, c'est la sainte parole de Dieu qui le déclare. Nous terminons cette petite étude maintenant. Il ne s'agit pas d'une probabilité, mais il s'agit d'une certitude qui est aussi sûre que le lever du soleil demain. L'apôtre Jean a vu ces milliers de personnes. Il est dit, j'ai vu et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et tribu, et de tout peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes à la main. Il me dit, « Ceux-ci sont ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 14. Oui, des multitudes de toutes nations lavées et blanchies par le sang précieux de Jésus. Ceci n'a pas encore eu lieu, mais cela viendra bientôt. C'est le prochain grand événement du calendrier de Dieu pour la fin de cette dispensation. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions. Dieu puissant et juste, encore aujourd'hui, par ta volonté paternelle, tu as daigné nous bénir et nous protéger. Puissions-nous apprécier l'étendue de tes miséricordes et ne point y demeurer insensibles. Aide-nous, Seigneur, à résister à toute influence qui tendrait à nous éloigner de toi. Accorde-nous la grâce de pouvoir nous appuyer fermement sur ta parole sainte, afin qu'elle soit notre guide et notre lumière à chaque instant de notre vie. Que dans ton livre divin, nous puissions chercher aussi la parole des prophètes afin de nous y attacher et de puiser en elle des espérances qui soutiennent notre courage. Sachant que les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé et que les prophéties auront tout leur accomplissement, nous devons chercher dans les promesses qu'elles contiennent l'assurance de ta fidélité et de tes compassions envers nous. Un grand nombre de ces prophéties divines ont déjà été réalisées de manière à confondre le doute et l'incrédulité même, l'histoire des nations, celle en particulier du peuple que tu avais choisi et comblé de tes soins, ô Seigneur. La ruine et l'asservissement de ta ville sainte, l'anéantissement total des puissances orgueilleuses et dominatrices qui ont disparu de la surface du globe, balayées par le souffle de ta colère. Tu l'as déclaré dans ta sainte parole, que le ciel et la terre passeront, mais cette sainte parole subsistera toujours et qu'il n'y aura rien en elle qui ne s'accomplisse, et cela jusqu'à un seul iota et à un seul trait de lettre. Des êtres immortels que vous êtes, chers amis, sachez donc porter vos regards au-delà du court espace de cette vie et contempler par la foi la réalisation des promesses et des déclarations du Seigneur. Ô Dieu, aide-nous par ton Saint-Esprit à nous confier en toi. Exauce nos humbles prières et garde-nous par ta toute-puissance, grâce, et que ton saint nom soit béni dès maintenant et à toujours. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et je peux dire à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.